Bonjour à chacun. Je ne sais pas si on a déjà la... Si, ça doit marcher, ça. Voilà, très bien. Je vais d'emblée ce matin dire que j'ai chaud. Et je pense que nous sommes très solidaires les uns des autres sur ce sujet ce matin. Néanmoins, on va essayer d'aller chercher, comme le disait Alain tout à l'heure, un peu de fraîcheur dans la parole de Dieu. Je vous invite à lire le passage suivant. Si vous le connaissez, je pense que vous allez le reconnaître rapidement. C'est Luc 14, versets 25 à 33. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, ses enfants, sa femme, ses frères et sœurs, mais même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, en voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien, supposez qu'un roi soit sur le point de partir en guerre contre un autre. Je vais être à la diapositive suivante. Voilà. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000? S'il se rend compte qu'il en est incapable, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix avec lui. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Ouh ! Je ne sais pas vous, mais ces paroles, elles ont de l'impact quand on les lit pour la première fois. J'avoue que je les ai entendues quand j'étais adolescent. Je les ai trouvées bien radicales, parce que trop radicales. Et pourquoi Jésus fait-il le tri ainsi, en se retournant vers la foule, tout à coup, en s'adressant à elle? Selon ce qu'en rapporte Luc, pourquoi cherche-t-il à décourager tous ses sympathisants qui pourtant adhèrent globalement à ses actes, à ses discours et à sa personne, au point de le suivre? Tout se passait apparemment très très bien jusqu'ici. Il devenait de plus en plus populaire. Pour Luc, que nous venons de lire, qui relate cet épisode, c'est la foule qui est visée dans son ensemble. Pour Matthieu, dans un récit ressemblant, ce sont les disciples. Pour Marc, qui reprend aussi cet épisode, ce sont les deux. Mais à la limite, peu importe. Parce que derrière Jésus, à ce moment-là, il y a plein de gens qui suivent, entre guillemets. Qu'ils soient disciples déclarés ou pas, d'ailleurs. Et la parole de Jésus, à ce moment-là, ne fait pas, jusqu'à présent, un distinguo entre eux très fort. Mais cette parole... Tout d'un coup, elle affirme que être disciple, c'est pas n'importe quoi. C'est une parole, de la part de Jésus, c'est souvent, hein, une parole clivante, une parole qui dérange, une fois de plus. Et le mot disciple vient du latin discipulus, qui désigne un étudiant ou un élève. La réalité que vit un disciple, c'est que c'est quelqu'un qui suit un enseignement. Alors vous connaissez ça en philosophie tout au long de l'Antiquité, les disciples de Socrate par exemple, ou dans le domaine des sciences aussi, un savant a des disciples et des adversaires, mais il a des disciples. Et vous connaissez ça aussi dans le domaine de la peinture. On disait souvent au 14e, 15e, 16e siècle, 17e siècle qu'il y avait un maître qui avait des peintres qui étaient ses disciples. Le disciple, c'est bien celui qui apprend, il veut apprendre. Au sens biblique, maintenant, si on regarde les choses, un disciple du Christ, on peut le définir de trois paramètres. C'est quelqu'un qui a décidé de faire confiance à Jésus-Christ en tant que Seigneur. C'est quelqu'un qui, en le reconnaissant effectivement comme son Seigneur, est régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est quelqu'un qui appartient à Christ et qui est transformé quotidiennement à son image, et j'ai mis des passages qui en témoignent ici, dont le beau passage de 2 Corinthiens 3, 18. Dans ce passage de Luc que nous venons de lire, il est clairement développé, et plus que dans Marc et dans Matthieu d'ailleurs, tout un exposé sur ce que signifie vraiment le choix d'être disciple, de choisir Christ comme un disciple. Et tout d'abord, c'est un engagement qui peut entraîner des conséquences. Je ne relis pas le texte, c'est le début du texte que nous avons lu dans Luc. Il y a d'abord cette réalité d'une coupure possible et du risque de la rupture avec son environnement quand on choisit tout d'un coup de suivre Christ. C'est une réalité. Les croyants sont en général appelés à faire un choix entre leurs différents attachements. Alors, par exemple, si je suis originaire d'une religion autre, quelle qu'elle soit, pour m'engager à suivre Jésus-Christ, il y a la clé, un renoncement à ma croyance d'origine. Et ce renoncement, les membres de ma communauté vont effectivement très mal le prendre. Ils vont le prendre comme un reniement, comme un rejet, quelque part une manifestation de détestation qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent formuler la question qui se pose à eux de la façon suivante: comment peux-tu haïr ce qui a fait jusqu'à présent le ciment de ta famille et de ta communauté? On a des exemples de ce vécu difficile à travers des exemples de la mission Porte Ouverte, par exemple, qui nous dit que dans certains pays, c'est la vie même qui est en danger quand on fait cela. Mais sans aller jusque-là, et pour rester dans notre environnement proche, regardons les choses ici, là, dans notre milieu très proche. Si je rompe avec la manière de vivre qui était celle de ma famille et de mes parents, si je m'écarte, si je m'en détache, parce que je trouve qu'elle est négative, je peux aussi me mettre à détester cette façon de vivre, parce que c'est plus moi, je ne m'y reconnais plus, c'est plus ma vie. À l'image d'ailleurs de ce qu'écrit David dans le psaume 26, il écrit: je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal. Alors David n'était pas exempt de tout, on connaît son histoire. Mais à un moment donné, il y a une compagnie qu'il ne peut plus supporter parce qu'il sait qu'elle ne lui apporte rien et qu'au contraire, elle est destructrice. Il prend ses distances. Alors, attention, dans ce passage de Luc, c'est bien le mot « haïr » qui est employé. C'est le verbe grec « miséo », « détester, haïr ». Alors que dans la traduction que je vous ai lue du semeur, c'est renoncer à, mais le mot haïr est plus radical. Il a donné ce miséo, il a donné misanthrope, il a donné misogyne, le mis de misogyne, c'est miséo, c'est détester. Et donc, ça peut paraître excessif, ce verbe quand même qu'emploie Jésus. On a l'habitude d'avoir un Jésus un peu douceâtre, qui n'est qu'amour et grâce, et là, il y va fort quand même. Mais malgré les traductions affadies, c'est bien ce mot-là, c'est-à-dire à un moment donné, ah, je me détache. Alors, il ne faut pas se tromper quand même, parce que Jésus ne fait pas la promotion ici d'une haine gratuite, puisque nous savons quand même tous ici qu'il nous commande d'aimer non seulement nos prochains, mais aussi nos ennemis. Donc il n'y a pas de promotion de la haine en tant que telle. Et puis, il faut faire attention aussi parce qu'il n'y a pas de haine a priori ou de principe qui serait une condition pour le suivre. Il ne s'agit pas de se mettre à détester sa famille pour se prouver à soi-même qu'on est disciple. Parce que ça, c'est typiquement la démarche des sectes. la coupure. Je ne serai un bon membre de la secte que si j'écarte ma famille. Ça, c'est la démarche sectaire. Non, le fait de faire des choix, Jésus nous dit, ça peut avoir des conséquences. Et c'est le sens de ses paroles. Il y a la possibilité de cet arrachement qui est douloureux, hein, à ce qu'on a l'habitude de vivre dans son cercle familial d'amis, parce que la famille, c'est le lieu de la sécurité au départ. C'est le lieu de la solidarité et de l'entraide. Donc, c'est quand même plus confortable à vivre que l'adversité. Ça fait partie de nos repères de vie. Ça nous donne une sécurité psychologique. Alors que suivre le Christ, dans les cas où il faudra nous séparer de ceux qui manifestement ne veulent pas adhérer ou partager ou simplement admettre ce que je suis devenu, eh bien, c'est beaucoup plus aller vers l'inconnu. Et moi, je voulais attirer votre attention sur le fait que c'est Jésus, il en parle en connaissance de cause. Regardez ce qui se passe. Il alla à la maison et de nouveau la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet, il est devenu fou. La mère et les frères de Jésus arrivèrent, ils se tinrent en dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. Il répondit, qui sont ma mère et mes frères? En promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. Vécu douloureux de la part de Jésus. Et n'oublions pas que Jésus s'est fait traiter régulièrement de bâtard dans son propre milieu. Il y a un mot hébreu qui est employé pour ça qui s'appelle mamzer. N'oublions pas qu'il a été traité de fils de la prostitution. Voilà. Donc quand Jésus dit quelque chose à un moment donné, ça repose aussi sur un vécu personnel qui n'est pas totalement artificiel. Alors oui, vouloir être disciple, ça peut avoir des conséquences en termes de choix et de choix douloureux. Quand Jésus se retourne vers la foule est devenue une espèce de fan club. C'est le fan club de Jésus. Et donc quand il se retourne et qu'il recadre les enjeux, c'est brutal. Parce que là, il ne s'agit pas d'être sympathique avec des sympathisants. Il s'agit de dire à un moment donné, vous voulez vraiment me suivre, voilà ce que ça coûte. Une des conséquences dont je disais d'être disciple, c'est que ça peut entraîner des ruptures. Personne ne les souhaite, mais ça peut entraîner des ruptures. Et Jésus dit des choses assez dures aussi dans un autre passage. « Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre ?» Non, mais la division. En effet, à partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre le fils contre son père, la mère contre sa fille, la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Bon, ça, c'est un peu plus classique. Mais finalement, selon le positionnement que les proches vont prendre par rapport à ce que vous croyez maintenant, eh bien, il peut y avoir des clashs. Il peut y avoir des clashs dans les familles. Et on pense ici au verset de l'Épître aux Hébreux, car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. La parole de Dieu qui est ici incarnée en Jésus lui-même ne va pas faire l'unanimité, elle va diviser, elle va séparer. Elle va partager des familles, parce qu'elle va demander à chacun de se positionner personnellement par rapport à ça. Elle est tranchante, elle va jusqu'au bout. Et si le message n'est pas fait pour diviser, il faut le rappeler inlassablement. Le message de Jésus est un message de rassemblement. Mais immanquablement, en fonction de la réception de ce message, cette parole va diviser. De fait. Dès le moment où la parole de Jésus est entendue, elle peut avoir plusieurs effets. Soit elle est entendue et oubliée, soit elle est purement et simplement rejetée, soit elle est reçue et elle fait son effet. Et son effet nous introduit alors à une réalité toute nouvelle, et c'est Paul qui le dit le mieux dans l'Épître aux Corinthiens. En effet, l'amour de Christ nous étreint car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc, tous sont morts en lui. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Et regardez ce que dit Paul à ce passage. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses sont devenues nouvelles. Ce que nous dit Paul ici, c'est « je ne vois plus les choses comme avant ». Je ne peux plus. Le fait de connaître Christ nous fait appréhender notre environnement de façon nouvelle. On ne peut plus voir l'humanité, on ne peut plus voir nos frères, nos sœurs, nos prochains, notre environnement de la même façon. Et on fait l'expérience d'une autre dimension, et c'est ce que dit Paul ici. Les choses sont devenues nouvelles. On ne peut plus vivre notre humanité simplement dans l'horizontalité de nos relations humaines. Notre regard a changé, il s'est enrichi parce que nous introduisons une nouvelle dimension par rapport à cette horizontalité, qui est la verticalité du regard de Dieu sur l'homme. Alors j'ai dit que ça pouvait avoir des conséquences, cet engagement, c'est aussi un engagement qui peut aussi, au-delà des conséquences, coûter cher, très cher. Ça peut coûter à celui qui peut apprendre de Christ, mais ça peut donc introduire de l'espace dans les relations, mais ça peut coûter encore plus. Jésus a toujours des paroles qui sont nettes, elles ne sont pas simplement l'eau de rose. Voilà ce qu'il dit à un moment donné à ses disciples: « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Et on ne peut pas dire les choses plus clairement. Il peut y avoir des conséquences, mais ça peut encore coûter plus cher. C'est être exposé. Et ça, c'est quelque chose que vivent certains de nos frères et sœurs dans des pays où le simple fait de se déclarer chrétien vous met en danger. Je vous lis quelques lignes de Porte Ouverte du mois d'avril. Ça se passe en Colombie. Il s'appelle Reina, Miguel, Juan et Felipe. Ils étaient membres de groupes armés. Et à un moment de leur vie, ont été touchés par le message de l'Évangile. Leur rencontre avec Jésus leur a fait prendre un chemin opposé à celui de la guerre et de la violence. À l'image de Saul de Tarse, ils sont passés du statut de persécuteur à celui de persécuté. Le chef de la persécution à responsable d'église. Poussés par le Saint-Esprit, ils se sont convertis et n'en sont pas restés là. Ils ont construit des communautés solides, engagées dans la vérité biblique, dans des régions où les chrétiens sont le plus persécutés. Mais leur engagement provoque la colère de leurs anciens complices, car en changeant de mode de vie et en adoptant un message radicalement opposé, ils deviennent les ennemis des groupes armés, selon lequel le christianisme est l'opium du peuple. Ça peut effectivement coûter très cher. Alors c'est vrai que ce n'est pas exactement le vécu de nos latitudes, mais regardez quand même l'évolution de la persécution des chrétiens dans le monde. Rapport de Portes Ouvertes l'année dernière, 360 millions de chrétiens, c'est-à-dire 1 sur 7, ont été ennuyés, persécutés, poursuivis. 360 millions, et ça ne décroît pas. Et c'est une réalité qu'on ne connaît pas bien encore en France, mais il y a déjà des atteintes aux personnes et aux biens. Il y a une assemblée évangélique à Marseille, il n'y a pas longtemps, qui s'est fait braquer, enfin, cambrioler, détruire, abîmer. Donc, ça peut se produire, oui, ça peut se produire. Et puis par expérience, nous savons qu'un pouvoir politique qui a quitté toute référence à l'Évangile, alors là, les digues peuvent sauter. On se rappelle bien sûr du régime nazi et de ce qu'il a fait aux églises. Mais le régime chinois n'est pas en reste. Et le régime des talibans aujourd'hui, que pourrait-on en dire ? Donc effectivement, avoir un engagement de disciple, ça peut coûter cher. Jésus n'en reste pas là. Il nous dit aussi autre chose, c'est que cet engagement, il doit être réfléchi. Alors que ce soit à la foule ou au groupe des disciples, il s'adresse à chaque personne et il demande à chaque personne de calculer la dépense. Le texte, c'est celui qu'on a lu, hein, calculer pour bâtir une tour et puis voir si on a les moyens de ses ambitions avec une armée de 10 000 hommes contre une armée de 20 000. Jésus nous invite là à quitter le registre émotionnel, celui qui liait à l'enthousiasme du groupe, à l'ambiance incroyable que provoque le déplacement de ce faiseur de miracles au moment où il parle, de cet homme qui parle si bien et si différemment, on dirait aujourd'hui, de celui qui fait le buzz. Car tout à coup, il se retourne et il parle à chacun et il dit quoi ? Tu veux être disciple ? Réfléchis bien. Assieds-toi et calcule. C'est une décision où il faut savoir à quoi tu t'engages. Et je prendrai qu'un exemple, lorsqu'on prend la décision de se faire baptiser, pour certains d'entre nous, c'est récent. Même si le jour de son baptême est riche en émotions, il y a toujours ce temps nécessaire de la réflexion et de la préparation pour saisir ce qu'on est en train de faire, le sens et la portée. C'est le signe d'un engagement, c'est aussi le signe d'une réflexion aboutie. Je le crois, on va dire, je le veux. Ce jeu, c'est pas nous, c'est pas un jeu qui est fondu dans un groupe, qui me porte. C'est un jeu qu'on assume. Le fait de dire, je dis publiquement que je veux être disciple. Calcule. Ne pars pas avec l'élan de tes émotions. Réfléchis. Il y a un jeune homme riche un jour qui s'approche de Jésus et qui dit « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et voilà ce que Jésus va répondre. Je vous laisse lire. On connaît son histoire, ce jeune homme riche. Il a absolument coché toutes les cases. Il a tout fait comme il faut. Et surtout, il a tout. Mais il lui manque quelque chose. Et la façon dont il pose la question est d'ailleurs très intéressante. Il dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, pour hériter la vie éternelle ? Moi qui suis déjà nanti, comment je peux obtenir ça en plus ? Et Luc, dans le récit, et c'est le seul qui le fait dans le récit d'ailleurs, il fait répondre à Jésus, c'est pas si tu veux avoir la vie, il dit si tu veux entrer dans la vie. Ça c'est très important. Il n'a pas répondu sur le même registre, il a répondu sur ton mouvement à toi, entrer et pas simplement avoir. Que dois-je faire pour avoir ? Le jeune homme, là on le connaît, il a calculé la dépense, il n'a pas pris beaucoup de temps pour la réflexion, mais il a quand même réfléchi, puis il a dit non, j'ai trop à perdre. Et on sait qu'il ne va pas aller jusqu'au bout. Il n'a pas les moyens de ses désirs. Donc, calculons. Alors en me dirigeant vers la fin du commentaire de ce passage, je voudrais quand même insister sur un dernier point et nous poser la question à nous, qu'est-ce que nous possédons ? J'ai eu le texte, hein. Prêt à abandonner tout ce qu'il possède. Qu'est-ce que nous possédons ? J'ai rappelé tout à l'heure, être disciple, c'est vouloir apprendre. En un sens, peut-on dire que l'on est disciple ? Moi, je pense qu'on le devient jour après jour. On apprend. On n'a jamais quitté l'école, d'une certaine façon. Mais il y a quand même des cheminements, dans ce cheminement, des étapes clés. Et une étape clé, notamment, où Jésus nous demande d'identifier, à travers ce récit, par exemple, ce à quoi on tient le plus. L'exemple qu'il a choisi, c'est un exemple extrême, hein, limite, c'est la famille, c'est la femme, les parents, les enfants, même soi-même, dans ce jeu-là. Il a voulu frapper les esprits avec cette illustration, incontestablement. À quoi est-ce que je tiens le plus? Mais on peut aussi se poser la question de façon plus intime ce matin, en nous demandant, là, assis sur nos chaises, et moi-même debout, à quoi je tiens le plus au final, là, en ce moment, dans ma vie. Et je suis sûr que c'est différent pour chacun d'entre nous, dans notre communauté, et que l'éventail est large. On a des attachements très divers et très variés. Pas seulement matériels, mais aussi relationnels, intellectuels, culturels. Bref, que possédons-nous? Et Jésus pose cette question, finalement, il incite à la réflexion, abandonner tout ce qu'il possède, mais qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu possèdes? Et alors finalement, Jésus n'y répond pas comme ça. Il ne répond pas par une liste de ce que nous possédons. Il inverse la question et il nous invite à dire plutôt qu'est-ce qui vous possède? Pas ce que vous possédez, mais qu'est-ce qui vous possède? Là où était ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce qui compte pour moi à un point tel que ça oriente mon implication, mes intérêts les plus profonds, mes choix, etc. Et ça, c'est une question clé, parce qu'effectivement, on est au cœur, là, la parole va au bout, hein. La pointe du tranchant, elle est là. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi ce matin? Et en fait, qu'est-ce qui me possède plutôt que je ne le possède? Alors, je m'achemine à la conclusion, et il ne vous a pas échappé que nous sommes en période de Tour de France. Si ça vous a échappé, c'est que vous n'avez pas la télé, vous ne voyez jamais les journaux, enfin bref, écoutez pas la radio. Mais c'est très intéressant dans cet événement estival, ce qui se passe, parce qu'on a des participants qui sont très différents les uns des autres. On a des coureurs, des suiveurs et des spectateurs. Alors si j'osais l'analogie avec la foule qui est en train de suivre Jésus, et je vais l'oser, hein, il y a ceux qui ont décidé d'être uniquement spectateurs. Ils sont intéressés, et pour beaucoup, ils sont intrigués, ils sont présents pour l'étape du jour, surtout si c'est au Tourmalet, ou si c'est l'étape impossible des 5000 mètres de dénivelé de l'autre jour, là. Tiens, Jésus et son groupe passent par là. Je vais aller voir. Il y a aussi parmi eux, ces spectateurs, ceux qui ont une opinion très précise, qui prennent parti, qui pour beaucoup sont critiques, il y a trop de tricheries. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce Nazaréen, doté de pouvoirs qui étonnent, mais qui sont parfois suspects? La religion, c'est l'opium du peuple. Il doit y avoir un profit à tirer quelque part. À cela, on ne la leur fait pas. Ça ressemble fort aux soupçons de dopage. Et puis, il y a les suiveurs. Ceux-là sont intéressés pour suivre la course derrière Jésus et ses fidèles et voir jusqu'où tout ça va mener. À chaque étape, ils se nourrissent de ce qu'il dit, ils sont impressionnés par ses miracles, ils aiment le collectif et la force qui se dégage de toute cette aventure. Et chaque jour, il peut se passer quelque chose d'étonnant. L'étape peut être particulièrement intéressante. Ils ont très très envie de voir la suite et la fin de l'histoire. Et c'est pour ça qu'ils ont consacré leur temps de congé, leur temps libre pour suivre le parcours. Mais ils ne monteraient pas eux-mêmes sur le vélo parce que c'est quand même trop dur. Et enfin, il y a les coureurs eux-mêmes. Et les coureurs, ils ont fait des gros efforts pour faire la course. Vous avez deviné que je parle un peu plus des disciples. Ils ont dû renoncer à certaines choses. Ils ont dû s'alimenter, se désaltérer d'une façon précise, s'entraîner régulièrement, ces coureurs, pour pouvoir prendre part à la course longue et éprouvante. Et quelques-uns d'ailleurs ont abandonné, découragés par l'exigence des paroles de Jésus. Mais la plupart ont un but, achever la course, arriver au bout. Alors un moment, Jésus se retourne, il embrasse du regard tous les spectateurs, tous les suiveurs, et il leur dit, vous savez, vous ne vivrez pleinement ce parcours qu'en montant sur le vélo. En quelque sorte, en passant du rôle de spectateur à celui de coureur, du rôle de suiveur à celui de coureur. Vous verrez qu'on ne vit pas exactement la même chose. On ne voit pas les mêmes choses quand on s'engage en tant que coureur, en tant que disciple. Mais ça en vaut la peine. Alors, puissions-nous saisir tout à nouveau ce matin la différence entre ces différents rôles de spectateur, de suiveur, de disciple, de coureur. Le dernier est le plus exigeant, c'est sûr, mais c'est aussi le plus riche, car c'est celui qui nous transforme véritablement. Amen.